Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut pour chacun d'entre nous? Mais le Seigneur a dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez, Dieu n'a pas un projet pour nous, des souhaits, peut-être, peut-être pas, comme nous, avec notre incapacité. On peut pas, on souhaite, mais on n'a aucun pouvoir, si ce n'est de favoriser certaines situations. Mais le Seigneur, lui, il veut que les brebis elles aient la vie à l'abondance. Et j'aimerais ce matin introduire ce passage, ce moment, pardon, par ce passage, psaume 81. Regarde avec moi ce psaume 81, une partie, un verset, mais on va lire 8 versets. C'est un psaume d'Asaph, et il va relater des événements que le peuple a connus dans le passé. Mais il commence en disant ce qu'on pourrait dire nous ce matin, « Lancez des acclamations vers Dieu, notre force. » Vous êtes là ? Oui, oui. « Lancez une clameur vers le Dieu de Jacob, entonnez la psalmodie, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez du cor la nouvelle lune à la pleine lune au jour de notre fête. » Car c'est une prescription pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre le pays d'Égypte. Moi, j'ai trois petits points. J'entends un langage qui m'est inconnu. Et c'est ce verset que je voudrais aborder avec vous. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je l'ai été délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Et je m'arrête là. Hein. Le verset qui va être le point de notre rencontre, le sujet de ce matin, c'est « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». C'est comme si Dieu parlait, on va le voir tout à l'heure, et ses mains ont lâché la corbeille. Quand le peuple hébreu du temps de Joseph s'est retrouvé en Égypte pendant 4 siècles, on sait que ça a été compliqué surtout sur la faim. Et la tension est montée à son comble. Il y a eu des obligations. Ce peuple est devenu esclave et devenu des exécutants, des bâtisseurs. Et le livre de l'Exode dit ceci. On dit qu'au chapitre 1, verset 11, « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait. » Et on pourrait dire que ça peut être le peuple de Dieu, ça. Plus on nous accable, regardez dans les pays où la persécution sévit, on a beau essayer d'étouffer le chrétien dans le sens d'étouffer la foi, de détruire, de s'opposer, de menacer, d'opprimer, béni soit le Seigneur, il est victorieux. Plus si on fait du vent contraire, plus ça prend. Et le Seigneur fait grâce, ça ne veut pas dire que c'est facile pour eux, mais Dieu est le soutien de leur vie. Je continue. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait. Et si l'on prit en aversion, les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Donc, dans ce récit qu'on a lu dans le psaume 81, on voit qu'il fait allusion à ce qui s'est passé il y a des siècles auparavant, hein, du temps de la sortie, avant de sortir d'Égypte. On peut supposer dans le verset « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille », cette corbeille, on peut supposer que c'est une corbeille qui servait à récupérer l'argile, un réceptacle, si vous voulez, quelque chose qui permettait, on pouvait dire corbeille, couffin, c'est à plusieurs traductions, hein. C'était ce réceptacle pour prendre de l'argile, parce que, rappelez-vous, il fallait faire les briques, non seulement ils construisaient, ils devaient fabriquer les briques, et à un moment donné même, le pharaon qui arrive avant la délivrance, du temps de la délivrance du peuple hébreu, ce pharaon va encore être plus dur et il va même, alors que Moïse est venu devant lui, il va obliger le peuple à aller chercher la paille pour fabriquer également donc ces briques. Alors, je voudrais partir de ce verset pour nous ce matin. Et j'ai intitulé le message « Relâcher ». On pourrait le dire autrement, abandonner, relâcher, lâcher, vous verrez bien. Et pourquoi ? Parce qu'il fait mention de fardeau, il fait mention d'un temps de délivrance. Il fait mention aussi d'accepter de lâcher la corbeille. Et c'est ces choses que je voudrais voir ce matin avec nous, parce que je crois que Dieu veut, Jésus veut, notre Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Il veut décharger notre vie de certains fardeaux. Il a fait en mourant sur la croix, il nous a déchargé du fardeau, du passé, du péché, etc. Mais il y a parfois encore des fardeaux qui ont besoin d'être déposés. Et Dieu a cette intention pour chacun d'entre nous. Je voudrais juste quand même dire, avant d'aller plus loin, donner une précision. Oui, il est question ici de la délivrance du peuple, de Dieu, à l'égard du peuple hébreu, mais c'est aussi fait, il est souligné aussi le fait que les Hébreux ont dû agir en conséquence ou répondre à l'appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention formidable de Dieu sans lien avec notre position. Comme il a été dit par le chant, par l'introduction de la scène, c'est nous qui décidons, dans le sens où c'est ma responsabilité, je choisis. Dieu ne nous impose pas, mais je choisis de le suivre. Bien sûr que je n'ai pas la capacité naturelle, mais en Jésus-Christ, je peux trouver la vie. Et ici, il y a une intervention formidable, et on le voit dans la sortie d'Égypte, c'est assez impressionnant comment ça s'est passé. Les 10 plaies, mes amis, c'est assez impressionnant. Et on voit comment Dieu ouvre la mer Rouge, et c'est formidable. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Mais les hommes doivent obéir, les femmes doivent réagir, les enfants doivent aussi suivre. Et c'est là la réalité, il y a notre part. Alors les fardeaux, pour les Hébreux, c'était certainement le fait de porter, ils ont construit des villes, et si on regarde un peu l'archéologie et les vestiges qui peuvent demeurer en Égypte, on s'aperçoit qu'il y a des choses fort intéressantes, on se dit « waouh, le travail colossal qui a été accompli, c'est quelque chose de remarquable ». Ces corbeilles étaient pleines d'argile, c'était un fardeau accablant, ce qui était pesant, certes, et il y a tant de choses qui accablent, qui vont augmenter le fardeau. Et je l'ai dit tout à l'heure, le pharaon va mettre encore plus de pression, et ça va être terrible. Et ils vont devoir aller chercher la paille eux-mêmes. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des réalités de fardeau écrasant que nous pouvons, ou vous pouvez connaître, en tant qu'être humain, nous avons connu peut-être. Peut-être certains sont encore sur les épaules de certains. Par exemple, le fardeau de l'éducation. Si vous avez été rabaissé régulièrement, vous êtes peut-être certainement encore conditionné dans votre comportement actuel par rapport à votre éducation. Bien sûr qu'on est le résultat de notre vie passée, il y a beaucoup de choses, mais il peut y avoir encore des complexes, il peut y avoir une forme de rejet intérieur, de choses qui se passent, qui font que ce fardeau de l'éducation est encore pesant, est encore là, est encore agissant. D'autres fois, c'est le fardeau de l'avenir. Et là, c'est peut-être un peu plus pour ceux qui ont mon âge. Je vais m'expliquer. On pense à l'héritage familial. Quand je parle héritage, je ne parle pas d'argent. Je parle héritage familial. Votre mère, votre père, ou vos parents, si vous les avez connus, finissent leur vie avec telle maladie. Et souvent, vous remarquerez, qu'est-ce qu'on pense? On se dit, est-ce que moi je vais finir comme lui ou comme elle? On se projette. Et alors, il y a une forme d'inquiétude qui est là, parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui sont, héréditaires. On a des bons héritages et des mauvais héritages. Et bien sûr, alors on est là, on peut avoir une forme de fardeau, d'inquiétude qui est là, qui se ressasse. Quand on est à 20 ans, 15 ans, je pense que ça, on ne le pense pas. Mais quand on a un âge certain, on pense à certaines choses. Et on se dit, finalement, peut-être. Et ça arrive, par exemple, moi, dans ma famille, du côté de ma grand-mère, on dit qu'il faut faire contrôler les intestins, tous les, je ne sais pas combien, je n'ai jamais fait. Et mon frère avait attrapé quelque chose, et d'autres aussi, certainement. Mais je me dis, bon, voilà, chacun pense comme il veut, chacun réagit comme il veut. Et d'autres, ce sera un contexte de vie difficile dans la famille. Il y a eu des divorces, il y a eu beaucoup de situations de divorce, admettons. Alors, il y a au fond de soi, peut-être, alors que la personne est en couple, il se dit, mais est-ce que je ne vais pas divorcer à mon tour aussi? Il y a une forme de questionnement, peut-être même de fardeau, peut-être comme pas une obsession, mais vous savez, quelque chose qui vient vous titiller tout le temps, et comme vous mettre un petit peu, comme ce fardeau, ça accable le cœur de l'enfant de Dieu. Et on est des êtres humains, il ne faut pas faire semblant de tout va bien toujours, il faut être honnête avec sa vie. D'autres, c'est des responsabilités professionnelles. Ils ont des conditions, ils ont un travail particulier, mais vous remarquez que les conditions deviennent compliquées parfois, non pas que ce n'est pas plus dur qu'avant, je ne pense pas, mais peut-être psychologiquement c'est plus difficile pour certains moments. Et je pense par exemple aux enseignants aujourd'hui, je les plains. Non pas que je ne les plaignais pas avant, je ne les aimais pas trop, quand j'avais moins de 20 ans, parce que pour, qu'est-ce qu'ils nous gavent. Mais moi je les plains quand même. Parce qu'aujourd'hui, s'ils disent quelque chose, il y en a. Pauline, elle est là, je l'ai vue tout à l'heure. Je ne veux pas te décourager. Une institutrice, persona, mais je ne veux pas te décourager. Mais quand même, je vous plains. Je vous plains parce que on ne peut plus rien dire. Parce que on n'y a plus de correction, plus de respect. c'est difficile, et il faut naviguer. Et je plains ceux qui sont dans le domaine médical actuellement, avec cette pandémie, avec d'autres situations qui se complexifient, avec toutes ces choses qui sont là, ces positions, c'est compliqué. Et tant de pressions sont là dans le monde professionnel parfois, il y a des charges qui sont là. Il y a aussi des responsabilités qui sont compliquées. Et je relisais là dernièrement, je l'ai lu, mais je n'avais pas plus pris conscience de ça. C'est Moïse. Moïse dans le livre des Nombres. Regarde avec moi Nombres au chapitre 11. Nombres au chapitre 11, verset 13. Vous savez, c'est quand le peuple dit qu'ils en ont marre de la manne. On mange toujours la même chose, ils sont dans le désert, ils en ont assez. Et puis ils viennent vers Moïse et puis ils commencent un petit peu à maugréer, comme quelquefois. Et Moïse dit ceci à Dieu, 11-13. « Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ? Car ils pleurent auprès de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. » Vous vous rendez compte de ce qu'il demande à Moïse, comme s'il ne savait pas où il habitait lui aussi. « Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur, et que je n'arrête pas ma vie sur mon malheur. » Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? Plutôt que de me traiter ainsi, moi je n'avais jamais fait attention au moment où il disait « tue-moi donc ». On parle souvent du prophète sous le genêt, etc. Mais on voit aussi Moïse, face à la responsabilité, il y a de quoi craquer des fois. Et ici, Moïse, il dit « il n'en peut plus ». Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. D'ailleurs, lui-même, quand Dieu lui dit qu'il va lui donner la viande, il doute un peu. Hein, vous le relirez chez vous. Mais le fardeau des responsabilités. Et on pourrait allonger la liste longuement. Il y a des fardeaux qui sont liés aux épreuves de la vie. Il y a des fardeaux durs. Il y a des gens, ils ont vécu des drames. Et c'est ainsi que vous croisez même des fois des chrétiens hein, qui n'ont plus vraiment envie de vivre. Ils n'ont qu'une envie, c'est de partir de ce monde. Parce que la souffrance est encore là, pesante. Il n'y a plus d'amour propre, il n'y a plus de conviction, d'estime. Alors je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas dire « Ah, c'est comme ça pour tout le monde, et puis on se lamente tous et on pleure tous ». Non, mais je dirais, c'est un peu comme Méphibosheth, vous savez, qui va dire « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu me regardes ? Je suis comme un chien mort tel que moi. Hein, je suis un vaurien. » Parce qu'il était perclus, certes, mais en même temps, il se sentait comme quelqu'un qui voilà. Et le chrétien, il ne doit pas se sentir comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Sinon, Jésus ne serait venu pour rien. Mais Jésus, il est venu pour nous sauver. Parce qu'il considère notre valeur en tant que personne. Et il veut nous sauver, nous transformer. Que de choses. Je peux en citer d'autres, choses éprouvantes qui accablent. Il y a des personnes qui souffrent énormément de solitude. On est dans un monde où la solitude devient pénible pour beaucoup. D'autres ont des maladies incurables et on peut comprendre que le fardeau est difficile à porter. Comprendre, on peut essayer de comprendre. D'autres, ce sera le divorce, un conjoint inconverti difficile à vivre, une stérilité, des enfants qui se sont éloignés de vous, vous ne les voyez plus. Et on voit bien des gens où la famille est un peu éclatée et on se dit oh, ils souffrent certainement de ces choses. Que de fardeaux. C'est pas vrai ? Il y aurait plein d'autres aspects à développer. Alors que peut-on faire ? Naturellement, on peut dire « je suis comme au découragement et je survis, je suis comme oppressé par ces situations et je suis malheureux. Pourtant, je sais que la foi m'amène à la vie, à la vie et à l'abondance et je suis malheureux ou malheureuse. » Et je dis « mais ouais, pourquoi ? Pourquoi ?» D'autres, une autre réaction, c'est de présumer de ses capacités de réaction. Hein. Vous savez, comme quand Moïse vient et tue cet Égyptien, il voit qu'il y avait une situation conflictuelle entre un Égyptien et un Hébreu, et il nous y dit dans l'Acte chapitre 7, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ne comprirent pas. Et qu'est-ce que Moïse, il présumait que, et puis finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on peut présumer de ses capacités, moi je vais ceci, moi je vais cela. Il m'est arrivé des fois d'entendre même des gens qui disent il faut faire comme ça dans l'église, tout le temps. Ils ont des belles intentions, mais c'est sentimental, c'est charnel pour essayer de stimuler quelque chose. Mais la vérité, c'est que Dieu qui veut faire son œuvre et ce n'est pas aux hommes à essayer de prouver quelque chose. Ça, c'est le fardeau. Et on pourrait encore prendre du temps pour décrire d'autres fardeaux. N'ayez pas peur, hein, on va y arriver. Mais il y a une délivrance qui est accordée. On l'a vu tout à l'heure, j'ai déchargé son épaule du fardeau. J'ai déchargé son épaule. Hein ? La délivrance, elle peut, vous avez vu, il entend une voix qu'il ne connaît pas. Et ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas une voix d'être humain, ce n'est pas une voix du leader de l'époque de Moïse, de Aaron ou de Myriam. Non, ce n'est pas du tout la voix de ces gens-là. J'entends une voix que je ne connais pas. Et nous, la voix que nous ne connaissions pas, c'était celle de Dieu. Mais la parole de Dieu a résonné dans nos vies. Et cette parole a touché nos cœurs. Et si on veut parler de délivrance, on pourrait dire un mot, on pourrait dire rédemption. Parce que rédemption, ça signifie racheter, s'emparer, affranchir, délivrer, sauver, j'ai regardé, hein. Droit de rachat, vengeur, etc., libérateur. C'est la délivrance, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte et se retrouve dans le Sinaï au début, etc., et après dans le pays de Canaan, c'est l'image de la nouvelle vie avec Dieu. Nous étions esclaves du péché, nous avions des contraintes, nous étions obligés d'eux, mais le Seigneur nous a affranchis et nous a libérés. Et c'est la délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison. Et c'est ce que Dieu veut accomplir. Le Rédempteur délivre de l'esclavage de la prison. Il délivre du fardeau. Il délivre de ce qui pèse. Et celui qui a le pouvoir de décharger votre vie, ce fardeau, nous le savons, c'est Dieu. Le livre des Proverbes dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille ». Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Comme pour dire, tu peux essayer avec ton armée, tous tes biens, tout ce que tu peux essayer de faire, tu t'en sortiras pas. Le psaume 33, verset 17, le dit aussi jusqu'au verset 21. Vous savez aussi que dans le prophète Ésaïe, il est dit, il fait mention de l'Esprit du Seigneur. Et vous savez aussi que Jésus va ouvrir le rouleau du prophète Ésaïe et va lire ce passage, que je vous le lis dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel. Du Seigneur, pardon, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance ou la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Il y a un psaume 91 aussi, il y a ce verset qui dit « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Satan, vous avez tous enfermés dans ce filet d'oiseleur, mais Jésus-Christ nous a sauvés. Alléluia. C'est vrai que la rédemption, on pense toujours au salut, au pardon, à la délivrance du péché. Et c'est vrai, c'est essentiel, c'est important. Mais aussi la délivrance ou le fait de décharger du poids, de ses fardeaux, des ressentis de la vie, des fausses conceptions, des problèmes identitaires qui peuvent être encore là, actuels, dans le cœur de l'enfant de Dieu. Parce que malheureusement, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne, toute chose devient nouvelle. Pardon, toute chose devient nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose devient nouvelle. Mais la relation avec Dieu est rétablie instantanément par la grâce de Dieu quand on se repent. Mais il y a aussi parfois un besoin d'un travail en continuité, un travail dans le cœur, dans l'âme. Alors, ça ne veut pas dire que l'œuvre de Jésus n'a pas été complète, mais il y a un travail dans le temps aussi de sanctification progressive. Et la sanctification progressive, c'est aussi reconnaître que des fois, j'ai pris telle manière de concevoir les choses, dans ma vie, j'ai tel ressenti ou tel regard, mais tout ça, c'est conditionné par telle et telle chose, mais la parole me dit, mais c'est ça qu'il faut prendre. Et moi, je reste peut-être sur ce chemin parallèle ou à côté. Et la délivrance, Dieu veut l'opérer. Il ne veut pas juste faire un petit peu dans nos vies, il veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je ne sais pas, bien-aimés, si certains, vous avez quelques fardeaux sur votre cœur qui conditionnent votre marche avec Dieu. Il vous semble qu'au lieu d'être épanoui, vous êtes plutôt en souffrance. C'est dur de marcher avec Dieu, vous traînez un petit peu les pieds. Ce n'est pas une critique que j'apporte. Mais si vous constatez ces choses, c'est que certainement il y a encore besoin d'être rempli, renouvelé. Et s'il y a quelques fardeaux à déposer, il faut le faire aujourd'hui. Il vaut mieux commencer aujourd'hui à déposer ces fardeaux que le faire à la fin de l'année prochaine. Hein. D'accord ? Soyons conscients que Dieu veut délivrer, veut décharger. J'ai déchargé son épaule du fardeau, il parle du peuple d'Israël. Mais il veut dire ce matin, je pense, j'ai déchargé de ton cœur, de ta vie, ce fardeau qui pèse dans ta vie. Croise des personnes, des fois, qui traînent des situations de non-pardon à l'égard de leur famille depuis des années. J'ai même vu sur leur lit de mort. Pourtant, j'en ai vu quelques-uns. Et même des fois, excusez, très peu, mais tant mieux que ce soit peu, des chrétiens qui sont en fin de vie et qui paniquent parce qu'il y a des choses à régler. Et Dieu permet des fois justement qu'ils aient le temps de le régler. Je l'ai vu plusieurs fois, ici ou ailleurs. Et j'ai vu vraiment que Dieu est tellement bon qu'il permet que malgré être passé à côté dans certains moments, il donne encore une opportunité. Mais pourquoi attendre? Pourquoi pas régler? Pourquoi pas développer cela? La troisième chose, donc j'ai dit tout à l'heure le fardeau. Deuxième point, c'était Dieu veut délivrer. Dieu veut te décharger. Et il y en a des souffrances. Comme ça, entre nous, on peut parler, ça va. Mais quand on est seul à seul, on a des fardeaux et on déduit qu'il y a des souffrances. Mais Dieu fait grâce. Dieu veut délivrer ta vie. Dieu veut te décharger de ces choses qui aujourd'hui te prennent la tête, qui t'accablent, qui te mettent un peu le nez au fond du trou, là, comme on dit. Puis, il y a l'acceptation. C'est la troisième étape. Et ses mains ont lâché la corbeille. Un jour, quand j'étais à Toulouse, jeune, plus jeune, je marchais dans la rue, puis j'ai vu un gars là-bas au bout de la rue qui court et qui court derrière une dame âgée qui lui prend son sac, vous savez. Elle avait le sac là, en bandoulière, la dame, elle marchait tranquillement, la mamie, là. Et le gars, il arrive, bah, il prend le sac, la mémé s'envole, pas trop loin, malheureusement, la pauvre. Et mais avant de prendre le sac, la mamie a tiré. C'est presque accroché, vous savez, comme les chiens quand ils mordent quelque chose. Vous tirez, ils viennent. Ben, elle s'est accrochée au sac, mais à un moment donné, elle était obligée de lâcher parce que le gars, il a tiré, il n'a pas cassé la sangle d'un coup. Et quand on veut, des fois, quand on est surpris, on résiste, on ne veut pas. Et quand ici, il dit j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille, là, il y a une acceptation. Et la première réaction, c'est toujours de retenir. C'est jamais de lâcher. Hein? Je connais une dame, là, qui est premier rang. Elle faisait du VTT. Avec des ados d'ici, il y a très longtemps. On était jeunes mariés. Et à un moment donné, au lieu de lâcher le vélo, de sauter, parce que c'était... elle est partie, paf, elle a été cognée le nez sur le rocher. Ça saignait de partout. Hein? Et voilà. Mais je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas lâché le vélo? Je ne sais pas, j'ai résisté à la fin du soleil. Et moi, personnellement, je saute vite. Mais bon, parce que je préfère me conditionner, même si je suis rembourré. On saute vite. Il faut accepter, il ne faut pas résister. Hein. Il est littéralement aussi dans la version d'Herbie, j'ai retiré son épaule de dessous le fardeau, ses mains ont été déchargées des corbeilles. La version Semeur, peut-être quelques-uns l'ont actuellement. J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. C'est-à-dire que l'intention de Dieu, c'est de que nous soyons plus écrasés, conditionnés par ces choses qui pèsent, ces troubles, ces choses qui prennent un peu la tête. C'est pas obligatoirement du péché. C'est pas des choses mauvaises, c'est des choses légitimes, mais ça pèse et ça traîne. Et Dieu nous, comme de dire, mais pourquoi tu portes ça encore? Pourquoi tu ne cherches pas à être délivré de ces choses? Dieu nous libère en Jésus, mais parfois nous ne lâchons pas. Mais pour lâcher, il faut croire, il faut l'accepter. Et je dirais que ces habitudes dans le temps disparaissent, que ces pensées soient chassées. On a du mal à accepter. Quelqu'un a dit, regardez, je repense aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Quelqu'un a écrit, ça je l'ai pris, certains se reconnaîtront. Il a suffi de 40 heures pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour faire sortir l'Égypte du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que ils n'étaient pas guerriers, parce qu'ils avaient des pratiques d'esclaves depuis des années, des siècles, parce que ceci, cela. Il a fallu que tout. Il y ait un travail de Dieu dans le cœur. Un travail de Dieu dans le cœur. Plusieurs fois, d'ailleurs, ils ont voulu revenir en Égypte. C'est pas vrai ? J'en ai compté moins de deux fois, mais il y en a, je crois, d'autres. Dans Exode 16, 3, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car nous avons mené dans ce désert, car vous nous avez amené dans ce désert pour nous faire mourir de faim, etc. Dans Nombre 11, 5, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Hein, ils rappelaient ces choses parce que, bien sûr, à force de manger de la manne, ils étaient un peu, incurés, etc. Dieu veut nous libérer de ces habitudes ou de ces systèmes de pensée ou de ces ressentis. Je peux ployer sous le poids de la culpabilité. Je connais des personnes qui ont même demandé pardon à Dieu plusieurs fois sur des situations compliquées. Ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Ils ont des problèmes, ils se disent c'est trop facile de profiter du pardon de Dieu, mais moi, et c'est peut-être de l'orgueil personnel finalement. de croire que on mérite pas de se pardonner, d'être pardonné, se pardonner parce que on se prend pour qui? On croit qu'on pourrait y arriver? On n'y arrivera pas. Par contre, le Seigneur, lui, nous libère. Ça, c'est une possibilité de ployer sous le poids de la culpabilité. Je peux continuer à ployer sous le poids de l'inquiétude pour mes enfants, les enfants adultes. Vous qui êtes plus âgés, vous avez certainement des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Vous pouvez ployer sous l'inquiétude, le poids de l'inquiétude, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. On peut continuer à penser qu'on est indispensable, que nous, on va arriver à faire quelque chose dans la famille. Là. Des fois, oui, on peut, parce qu'on va demander pardon, parce qu'on va se positionner, mais des fois, on ne peut rien. Mais lui, il peut tout. Et je dirais, lâchons la corbeille. Lâchez la corbeille. Vous savez, ça me fait penser comme à Abraham. Quand Dieu lui dit, prends ton fils Isaac, et va et sacrifie-le sur le mont Morija. Mes amis, il aurait pu ployer sous le poids de l'inquiétude. Là. On peut dire, ah ouais, comment ça va se passer? Oui, non, comment ça va faire? Je sais qu'il doit y avoir une descendance, mais quand même, là, c'est inquiétant. Il demande de sacrifier mon fils. C'est le fils de la promesse. Certains diront, oui, il savait, oui, écoutez, si on vous l'avait demandé à vous. Bon, ça c'est moi, hein. C'est pas la version biblique ça. Dieu se pourvoira lui-même, a dit Abraham. Bien sûr, vous allez dire, oui, mais c'est le principe de la foi. Oui, c'est bien en théorie d'analyser, mais de le vivre, c'est autre chose. Analyser, tout le monde y arrive. Hein. Mais le vivre, des fois, le Seigneur nous met devant des pas de foi à faire. Et là, nous sommes, j'y vais pas, comme disait mon épouse, sortir de notre zone de confort, est-ce que ça va? Voilà. Et lâcher la corbeille, c'est dépendre de Dieu. Lâcher la corbeille, c'est accepter que je ne maîtrise pas les situations et que beaucoup peuvent m'échapper, mais qu'à lui, rien n'est impossible. Lâcher la corbeille, c'est accepter que le fardeau soit déposé une fois pour toutes. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Et ce que Dieu veut pour nous ce matin, si vous avez des fardeaux tout à fait spécifiques dans votre vie qui vous sont personnels, ben Dieu veut qu'on lâche la corbeille. C'est-à-dire qu'on abandonne ça et on dit, Seigneur, ben, finalement, pourquoi je continue à ployer sous le fardeau? D'ailleurs, vous avez remarqué que quand je ne lâche pas la corbeille, ça provoque de la fatigue morale, même voire physique, psychologique. Il y a des crispations, la personne est irritable, vous approchez, vous lui sortez, vous l'embêtez un petit peu comme les autres fois, vous faites une tête, vous comprenez qu'il y a un problème, et vous dites, bon, c'est bon, je me tiens à distance. Hein, pourquoi? Parce que vous voyez, vous déduisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le fardeau est là, il pèse. Et que de situations dans la vie des hommes qui peuvent nous accabler. Mais béni soit le Seigneur, il veut faire déposer ta corbeille. Il veut que tu déposes ta corbeille. Ça fait penser aussi ce récit du Nouveau Testament, et je vais conclure bientôt, de cette Samaritaine hein, qui est là, vous savez, au puits de Sichar. Elle rencontre Jésus. Elle vient là parce qu'elle a une manière de vivre qui n'est pas la meilleure. Elle a déjà eu 5 maris et celui avec qui elle vit, ce n'est pas son mari. Vous voyez qu'elle avait une vie un peu spéciale, une vie familiale spéciale et je ne la juge pas parce que c'est le lot de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais béni soit le Seigneur, quand elle rencontre Jésus, Jésus lui parle, il y a un échange, et puis elle dépose sa cruche et elle s'en va. Elle, ce qui était comme... Alors la cruche, c'est l'image pour moi. Hein. Elle dépose sa cruche, bien sûr que c'était pour boire, etc. Mais elle dépose sa cruche là, elle ne reste pas avec ses habitudes, au cachet, je viens là midi, comme ça je suis tranquille, etc. Elle n'essaie pas de fuir. Elle est consciente que maintenant, finalement, celui qui est là, le Messie, ne serait-ce pas le Messie, dira-t-elle à tous les habitants de Sichar. Elle court, elle crie, voilà, il y a celui-ci, tout le monde devait être stupéfait. C'est pour ça qu'ils ont tous accouru pour aller voir ce qui se passait au puits de Sichar. Parce qu'elle, on sait bien qu'elle se cache, on sait bien comment elle vit. Et en plus, c'est elle qui est le porte-parole, alors là, donc ils sont allés voir. Hein. Mais elle a accepté, quelque part, d'abandonner la honte, d'avoir une vie conjugale des plus peu glorieuses. Elle a accepté d'abandonner ses manières de faire. Parce que quand on rencontre vraiment, on lâche la corbeille, c'est se détacher de ces dysfonctionnements ou de ces choses qui accablent, se détacher de ces choses qui amènent l'individu, même chrétien, à être comme étouffé, à toujours voir, il a la tête qui sort de l'eau, il remet la tête dans l'eau. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas lâcher la corbeille, si c'est ça. Et souvent, personnellement, je me dis, Seigneur, si ma vie spirituelle est toujours, je suis un peu ronchon, ou mal, pas bien dans ma peau, c'est que vraiment j'ai besoin de lâcher des choses. Peut-être abandonner des craintes, abandonner des peurs, abandonner des fardeaux. Parce que qu'est-ce que c'est bon qu'on est tranquille? Qu'est-ce que c'est bon qu'il y a le repos de la foi? Ça ne veut pas dire que tout a changé hein, dans les situations. Rien n'a changé. Parfois, si. Mais rien n'a changé. Par contre, vous, dans votre tête, vous avez changé. Le fils prodigue, quand il est parti, là, je fais l'allusion, mais quand il est parti d'un contexte qui était bien, mais lui, il pensait que. Et quand il revient exactement dans le même contexte. Exactement. Mais son regard avait changé entre-temps. Et des fois dans nos vies, on pense qu'il faut changer la manière de fonctionner dans une église, la manière de faire, les chants, les ceci. Excusez-moi, ça c'est que un peu la mentalité humaine. Bien sûr que je ne dis pas qu'il faut... Moi je ne vais pas faire un discours là-dessus. Mais ce n'est pas... Comment dire ? C'est pas ainsi que ça change, voilà. C'est pas ainsi que ça change. Souvent, c'est mon cœur qui doit changer. C'est ma manière de voir qui doit changer. Et c'est pour cela que je dois chercher Dieu plus que de chercher des méthodes ou des principes. Et ce matin, le Seigneur, je crois, nous invite, t'invite à décharger ton épaule du fardeau. Et je conclue. Qu'est-ce qui pèse encore sur votre vie, que ce soit vous qui êtes en Zoom ou vous qui êtes ici? Qu'est-ce qui pèse, parlez-vous, dans votre cœur, hein ? Voulez-vous lâcher cela ? Voulez-vous abandonner cela au Seigneur ? Il veut décharger votre épaule de ce fardeau. C'est pour ça qu'il dira, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Seulement, je peux me décharger et reprendre, mais c'est parce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu te décharges une fois pour toutes. Bien sûr que tes pensées vont tendance des fois à revenir sur des choses, mais tu as dit, ça y est, j'ai fait ça, je ne veux plus penser comme ça. Je refuse d'entretenir cette manière de concevoir, cette inquiétude. Je ne veux pas alimenter mes propres fardeaux. Ils sont ce qu'ils sont, mais je veux les abandonner au Seigneur. Et débutons l'année ainsi, afin que ta vie soit vraiment conforme à ce que dira Jésus. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est ce que Dieu veut, une abondance de vie, de foi. Voilà. Et puis pour les situations qui te pèsent, comme tu as déchargé, tu peux prier. Ça, oui, tu peux faire. Tu peux prier pour ces situations, mais dans la paix de Dieu. Seigneur, je ne pourrais rien faire par moi-même. Alors, pourquoi je m'inquiète ? Mais je sais que toi, tu peux faire grâce. Et si à un moment donné, je dois intervenir, tu me le montreras. Si tu me dis que je dois faire ça, je le ferai. Mais moi, je veux me décharger. Je veux accepter que tu décharges mon épaule de tous ces problèmes, de tous ces fardeaux. On va courber nos fronts. Et je voudrais prendre un temps de prière. Un temps avec vous de réflexion. Bon, bien sûr, bien évidemment, c'est un sujet qui touche obligatoirement quelques personnes, ça c'est clair. Je pense pas à une personne parmi vous en particulier, que Dieu me garde, d'envoyer un message pour une personne que je sais ceci, cela. Non, je ne veux pas vivre comme ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vraiment, Dieu intervienne dans nos vies, dans ta vie. Et vous qui avez des fardeaux, un fardeau peut-être qui est pesant, alors qu'on est recueillis, s'il vous plaît, par respect les uns pour les autres, on ne se regarde pas. Je voudrais vous dire, te dire, fais ce pas de foi ce matin, en te levant à ta place, en disant, moi, ce fardeau, Seigneur, tu m'invites vraiment à me décharger, tu veux le faire sortir de mes épaules, tu veux vraiment me délivrer de ça. Alors je l'accepte, la preuve, c'est que je me lève devant toi, et je prie vraiment, et vous priez dans votre cœur, que ce fardeau, vous lui remettez, vous dites, j'accepte, Seigneur, de lâcher prise par rapport à ça. Je ne veux plus toujours essayer de faire quelque chose, mais je veux juste te laisser l'opportunité de toi de faire ce que tu voudras, mais moi, je veux être en paix avec toi. Si quelques-uns sont concernés, je vous invite à vous lever à votre place et on va prier au nom du Seigneur. On va demander vraiment sa grâce. Alléluia, Seigneur, tu fais grâce. Tu fais grâce. Jésus-Christ, restons recueillis et vous qui êtes debout, priez dans votre cœur. Faites confiance au Seigneur. Ne laissez pas les pensées vous perturber. Regardez au Seigneur ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il fait encore pour vous ce matin. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui se lèvent, non parce qu'ils ont honte, mais parce qu'ils s'attendent à toi dans leur vie. Tu n'es pas celui qui est un juge, tu nous appelles encore par ton amour à être, Seigneur, déchargé. Tu veux décharger le cœur de ces bien-aimés. Et tu sais vraiment ce qui pèse dans leur âme, dans leur cœur, dans les circonstances de leur vie. Et Seigneur, ce matin, dans la foi, nous croyons que tu prends ces corbeilles, tu les décharges, et Seigneur, eux-mêmes, ils acceptent d'être déchargés. En se levant devant toi, ils démontrent, Seigneur, qu'ils veulent être déchargés de ce fardeau, et nous te rendons grâce, parce que ce que tu fais, tu le fais parfaitement. Et tu donnes, Seigneur, au lieu de l'inquiétude, au lieu, Seigneur, de l'anxiété, au lieu peut-être de ces tensions morales, de ces craintes, tu donnes, Seigneur, une paix profonde à celui qui s'approche de toi. Et Seigneur, quand nous déchargeons, tu prends tous nos soucis, tu prends soin de nous, dit ta parole. Alors comme, Seigneur, un baume guérissant, tu bénis ces bien-aimés. Et tu leur donnes, Seigneur, dans les circonstances qui vont être devant eux, de ne pas reprendre la corbeille et de dire une fois pour toutes, c'est lâché et je compte sur la grâce de Dieu. Tu les bénis maintenant dans leur cœur et leur âme. Tu les bénis, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, nous réjouir de ce que tu vas faire et nous voulons te prier de nous faire grâce pour ne rien laisser, Seigneur, rien reprendre sur nos vies qui serait comme un poids pour dans la marche. Merci pour ta grâce et tes bontés. Nous te louons. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir.